Au printemps 1975, nous apprîmes que, durant l'été, nous quitterions Pékin pour New York. Cette nouvelle m'étonna. On pouvait donc vivre ailleurs qu'en Extrême-Orient ? Mon père fut contrarié. Il avait espéré que le ministère belge l'enverrait en Malaisie. L'Amérique ne le tentait pas. Mais il était soulagé de partir de cette Chine. Nous l'étions tous. Pour lui, quitter Pékin, c'était quitter l'enfer du maoïsme, le dégoût d'entrevoir des crimes sans nom. Pour moi, c'était échapper à l'école qui avait vu mon humiliation amoureuse et c'était fuir trait qui me tirait les cheveux chaque matin. La seule chose triste serait de dire adieu à M. Chang, le cuisinier magique. Ce que la Chine comportait de réellement chinois nous enchantait. Hélas, cette Chine rétrécissait comme peau de chagrin. La révolution culturelle l'avait remplacée par un pénitencier géant. Et puis, la guerre m'avait appris qu'il fallait choisir son camp. Entre la Chine et le Japon, je n'avais pas eu l'ombre d'une hésitation. Il est exact que, au-delà de toute politique, ces deux pays étaient des pôles ennemis. Adorer l'un impliquait, sauf à être le dernier des fauchetons, d'avoir des réticences quant à l'autre. Je vénérais l'empire du soleil levant, sa sobriété, son sens de l'ombre, sa douceur, sa politesse. La lumière aveuglante de l'empire du milieu, l'omniprésence du rouge, son sens tapageur du faste, sa dureté, sa sécheresse, si la splendeur de cette réalité ne m'échappait pas, elle m'exilait d'entrée de jeu. Je vivais aussi cette dualité à son échelon le plus simple. Entre le pays de Nishio-san et le pays de Trai, mon choix était fait. L'un de ces deux pays était trop violemment le mien pour que l'autre m'acceptât.